auditrices et auditeurs des programmes de Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 10 mai 2024. Voici les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine et qui ont attiré notre attention. La situation de l'épidémie de la méningite dans le pays. Ensuite, la décision de la Commission nigériane de régulation de l'électricité qui a ordonné de plafonner l'approvisionnement en électricité de 6% aux clients internationaux du Bénin, du Togo et du Niger. Ensuite, la décision des autorités béninoises de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à la station terminale du pipeline Benin-Niger située à Semé-Podji. Pour décrypter ces sujets, je reçois Hassan Boukar, il est journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan Boukar. Houssaini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir.
Bonsoir Nafissa.
Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Madame Maimouna Diado, journaliste indépendante. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Une épidémie de méningite s'est déclarée au Niger depuis des mois. Et depuis la mi-mars, environ 123 personnes ont trouvé la mort, surtout des enfants. Et sur ce, plus de 2012 cas enregistrés selon l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU. Selon toujours l'OMS, la région de Niamey est l'épicentre de l'épidémie, suivie des régions d'Agadez, de Zender et de Dosso. Alors, plus de 2000 cas enregistrés à la date du 2 mai et une centaine de morts. Que vous suscite à ces chiffres, Hassan Boukar?
Merci. Alors, malheureusement, c'est comme la tradition hein, à cette période. De fortes chaleurs, le Niger fait face à la méningite. Et là, cette année, je pense que les institutions comme l'OMS sont un peu inquiètes de la montée en fait en puissance de cette maladie, notamment à partir de la capitale. Donc, c'est quelque chose malheureusement auquel les pouvoirs publics sont habitués aussi hein, depuis des années. Mm-hmm. Avec l'appui des partenaires au développement, on essaie toujours de réduire les effets de cette maladie. Mm-hmm. Là, je remarque par exemple qu'ils ont commencé les vaccinations, notamment
justement,
dans
la campagne de vaccination.
Voilà, une campagne de vaccination.
Dans les établissements.
Mais je continue, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur cette même antenne, à dire qu'il faut quand même prévenir. Hein.
Surtout qu'on sait que le Niger il fait partie des 26 pays d'Afrique hyper endémiques pour la méningite.
Voilà, c'est un pays à risque. De la même façon qu'à la veille de la saison de pluie, on peut faire la communication contre le paludisme, puisque c'est la période pendant laquelle on connaît le pic. Pour la méningite, en début de période de chaleur, on peut quand même faire une communication pour préparer les gens, n'est-ce pas, à lutter contre la maladie. Ça coûte toujours plus cher de gérer une épidémie que de la prévenir. Mm-hmm. Donc la prévention, on connaît les moyens traditionnels, notamment la communication, mm-hmm. mais il y a aussi normalement des services qui surveillent cette maladie. Donc dès que les signes arrivent, à mon avis, il doit y avoir aussi la communication pour dire aux gens, éviter telle chose, voilà comment ça arrive, voilà cette communication. Mais j'ai fait le constat que, bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On attend toujours que l'épidémie s'installe. On passe au traitement. Quand ça passe, on tourne la page en attendant la prochaine épidémie.
Bon, on devrait prévenir. Les années précédentes, c'était la région du Zender qui était vraiment...
Oui, la zone du Zender a été la zone...
Aujourd'hui, c'est la région de Niamey. Est-ce que les fortes chaleurs, le changement climatique pourrait...
Oui, peut-être qu'on peut...
favoriser cela.
Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que les services compétents n'ont pas suffisamment communiqué là-dessus pour faire le lien entre ces fortes chaleurs et l'épidémie de méningite. C'est vrai qu'on fait le constat que la ville de Niamey a connu quand même des records de chaleur. Hein. Cette année, c'est extrêmement
jusqu'à
difficile.
Jusqu'à 46 degrés.
Voilà, ces dernières semaines ont été très, très dures. Mais je pense que la méningite, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que pendant les périodes de chaleur, quel que soit le degré de chaleur, il y a toujours cette épidémie. Comme vous l'avez dit, l'année dernière, qui s'est beaucoup développée autour de la région de Zender et donc cette année autour de Niamey. Donc, à mon avis... Il y a vraiment encore une fois un travail de sensibilisation parce que pour l'instant, on peut certes vacciner les gens, mais on peut surtout préparer les gens par une communication efficace de façon à limiter la propagation de la maladie. C'est vrai qu'il y a des endroits très sensibles, les écoles,
justement,
au vu du fait que cette maladie, elle est quand même, elle se propage très vite. Des endroits comme les écoles sont des endroits très sensibles et j'imagine que c'est la raison pour laquelle
elles ont été les cibles, oui,
voilà,
de la vaccination. Et justement, une campagne de vaccination contre cette maladie a été, qui a ciblé même les enfants d'un an à 19 ans, a été menée donc à Niamey du 2 mai au 6 mai 2024. Alors vous, Ousseini, Hassan Boukar parle d'un travail de sensibilisation qui doit être de mise. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette mesures de riposte aujourd'hui que cette épidémie s'est déclarée, les vaccinations, on devrait les faire en amont? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui?
En réalité, c'est quand même une épidémie cyclique. Hein.
C'est-à-dire c'est,
je veux dire, ça dit deux ans sur trois, on assiste on a ce genre de cette maladie-là. Et c'est une maladie, comme tout le monde le sait, c'est une épidémie, c'est pendant la chaleur.
On connaît la période précise.
On connaît la période précise, ça va du mois de février souvent jusqu'au mois de mars, avril, ça va souvent jusqu'au mois de mai, n'est-ce pas? Mais malheureusement, comme il l'a dit, on attend la dernière minute quand la maladie, quand ça commence à prendre de l'ampleur, c'est à ce moment qu'on essaie de vacciner. Parce que dès le départ, quand ça a commencé, ça commence toujours timidement. Maintenant, il faut attendre que ça prenne de l'ampleur avant de chercher à mener ce genre de campagne. Moi, je me dis, quelque part, il faut régulièrement vacciner, c'est-à-dire que dès que ça approche, il faut, en tout cas, les couches les plus vulnérables, il faut chercher à les toucher, organiser des séances de vaccination. Dans tous les cas, le vaccin, on dit que c'est pas ça prévient. Mm-hmm. Mais malheureusement, quand on attend, quand ça s'installe.
Et normalement, je crois que ces vaccinations aussi, ces vaccins autant pour moi ont une période de validité.
Mais une période de validité, si c'est la qualité. Oui, parce qu'il y en a qu'on dit ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans une fois qu'on est vacciné, c'est 3 ans. Mais à l'époque, en tout cas, c'était quand même des vaccins qui étaient vraiment sérieux parce que quand la personne est vaccinée. À l'époque, quand je parle de l'époque, on est protégé sur une certaine période. Mais maintenant, on ne sait plus exactement parce que chaque année, quand ça arrive, il faut vacciner tout le monde. On ne fait pas de distinguo. Par le passé, quand on vaccine une fois, on demande est-ce que la personne a réussi la vaccination l'année d'après ou l'autre année, sur 2 ans. Mais malheureusement, on constate que bon, c'est une campagne d'ensemble. Et cette fois-ci, la campagne qui a été menée, ça a été circonscrit. Ça a été circonscrit dans le temps, n'est-ce pas? On ne sait pas combien de personnes ça a pu être touché, mais on sait qu'il y a eu une campagne vraiment...
Du 2 au 6 mai,
en 4 jours.
En 4 jours,
moi je dis, c'est vraiment court. Est-ce que les doses de vaccins qui ont été commandées, est-ce que ça peut permettre de couvrir véritablement une grande cible? C'est pas évident. Mais maintenant, tout ce qu'on peut souhaiter, parce qu'on sait... En tout cas... De manière empirique, on dit quand il pleut, dès qu'il y a une bonne pluie, c'est
ça. Toutes les petites maladies vont partir.
Oui, bien sûr, parce que les germes ne résistent pas, je crois, à l'humidité, à la pluie. On souhaite qu'il y ait une bonne dose de pluie.
Mais malheureusement, la météo dit que la pluie d'avant-hier n'était pas le début d'une saison pluvieuse.
Bon, on est quand même dans la période, justement, quoi qu'on dise, on est dans la période. Au mois de mai, on considère que, malgré les changements climatiques, mais à partir du mois de mai, on considère quand même que c'est vraiment, on est dans la période. Parce que bon...
Il faut s'attendre
à ce que ce soit des pluies qui vont pas, en tout cas dans le temps et l'espace, ça va commencer. Les paysans même sont surpris souvent. Il y en a qui sèment, dès qu'il y a une grosse pluie, ils vont aller s'aimer, n'est-ce pas? Parce que si tu ne sèmes pas, tu peux être surpris. Parce qu'on voit un peu les délais, c'est pas réparti dans l'espace, n'est-ce pas? Dans le temps et dans l'espace, souvent ça commence, ça se concentre sur une période et puis ça s'arrête d'un coup. Maintenant, ça, tout, c'est vraiment...
Entre parenthèses.
Mais moi, je dis, on souhaite qu'il y ait une bonne dose de pluie, une bonne pluie ici. Pas seulement à Niamey, il y a des régions qui ont déjà enregistré des grosses pluies. Que ça tombe aussi à Niamey.
Mais OMS a déjà souligné que le Niger fait partie aujourd'hui des 26 pays d'Afrique.
Oui, c'est la
ceinture de feu. Hyper endémique.
Oui, c'est la ceinture de feu.
Mais qu'est-ce qui explique vraiment que nos autorités... s'attardent ou bien attendent.
Oui, oui, mais c'est ce qu'on appelle la ceinture de feu. Mm-hmm. Par rapport à la méningite, ça dit ça va jusqu'au crinière, je crois, une partie. Mm-hmm. Bon, maintenant, on sait que c'est récurrent chaque année, ou tous les deux ans, quand même, on a ce genre de situation-là. Maintenant, c'est de prendre les dispositions.
Et bon, justement, quel genre de dispositions?
La conservation du vaccin aussi, ça pose problème. On ne peut pas commander à l'avance des vaccins, n'est-ce pas? Maintenant, il semble qu'il y a, dans les recherches, il y a des vaccins qui sont encore plus efficaces. Parce que c'est des souches, il y a plusieurs souches. Il y a des vaccins.
Il y a
un vaccin qui a été récemment, je ne sais plus là où je l'ai lu, qui peut combattre toutes les différentes souches. Mm-hmm. Parce que ça dépend des souches aussi. Il y a des souches qui sont très virulentes, il y en a qui sont modérées, et ainsi de suite.
D'accord. Alors, il faut que des dispositions soient prises en amont. Maimouna Diadou vient de nous rejoindre. Bonsoir, Maimouna.
Bonsoir, la fille.
Alors, cette épidémie qui sévit ici au Niger, et plus précisément à Niamey, qui est l'épicentre de cette épidémie, selon l'OMS. Alors, Ousseini parle des dispositions qui doivent être prises en amont. Quel genre de dispositions, selon vous? D'ailleurs, un mot sur cette épidémie qui sévit.
Oui, d'abord, il faut reconnaître que l'épidémie est là. Et il faut également aller sur la base que déjà les autorités se sont, en tout cas, ont déployé quand même les vaccinateurs un peu partout dans la ville de Niamey.
Dans les établissements scolaires.
Mais ce que j'ai remarqué qu'il faut déplorer, c'est que sur la banderole, c'est écrit un an à 19 ans. Un an à 19 ans. Et aujourd'hui, je me rends compte aussi que c'est des personnes plus âgées de 19 ans qui se font également vacciner. Donc, il n'y a pas eu de disposition, il n'y a pas eu
de... Il y a eu un manque de sensibilisation.
Parce que là, quand vous dites 19 ans, en principe, après 19 ans, on ne devrait pas être inquiété, on ne devrait pas être vacciné. Donc, quand on regarde, peut-être ceux qui ont reçu le vaccin sont des personnes encore plus âgées que l'âge qu'ils ont donné, la cible qu'ils ont donnée. Et peut-être que c'est affecté, alors ils ont été plus en masse à être vaccinés que les cibles de 1 an à 19 ans, comme ils l'ont dit. Maintenant, ça veut dire qu'il y a eu la sensibilisation. De ce côté, l'information n'a pas bien, en tout cas, passé. Et qu'aujourd'hui, il y a également des femmes qui se font vacciner, qui ont peut-être des débuts de grossesse. Pourquoi pas ? Qui se font vacciner et qui ne savent pas peut-être les conséquences que ça peut avoir.
En tout cas, les spécialistes déconseillent cette vaccination.
Voilà, donc ça veut dire qu'il faut énormément réfléchir de manière à ce que tout le monde se retrouve.
C'est comme soutien à Hassan Boukar, c'est cette sensibilisation qui devrait être...
Oui, mais la sensibilisation aussi, il faut relever certaines choses qui n'ont pas été, en tout cas, dites, doivent être dites dans la sensibilisation. Parce que la sensibilisation aujourd'hui, et surtout il faut tenir compte que nous sommes dans un pays où les langues sont très importantes. Ça veut dire que quand vous faites une sensibilisation où dans chaque région, la langue qu'on maîtrise dans ces régions-là soit véhiculée. C'est très important aussi. Voilà. Et maintenant, les dispositions à prendre, c'est qu'on l'a toujours dit. Nous savons que la méningite a une période. Mais pourquoi attendre cette période pour pouvoir vacciner la population?
Pour faire la prévention.
Oui, parce que on a une fois eu à discuter de ça dans ce forum, je pense bien par rapport à ça. Donc c'est là-bas aussi il y a une faille qui est là. C'est-à-dire que les dispositions.
Une part de responsabilité des autorités.
Parce que là vous connaissez, c'est pas le citoyen, c'est pas moi qui suis peut-être chez moi, je sors, je peux. Est-ce que moi je peux connaître et savoir si l'épidémie est là tant que le ministère de la santé et avec l'OMS ne disent pas ça.
Mais au-delà même des autorités, des dispositions qui doivent être prises par les autorités, des comportements adoptés par la population en cette période, à l'approche de la période.
Les comportements adoptés, moi, chaque fois, on le dit. Il y a la propreté, il y a l'hygiène de l'endroit, des endroits que vous occupez, l'environnement. Il y a également la manière aujourd'hui où, dans une seule salle ou dans une seule
cohabitation en masse,
C'est ça aussi, il faut qu'on essaie d'éviter ça. Qu'on essaie d'éviter le regroupement lors des mariages, des baptêmes, où tu vas te retrouver...
Mais dans notre société aujourd'hui, cela est faisable.
Non, mais c'est pas que c'est pas...
Oui. La COVID
nous a enseigné.
En tout cas.
Oui, donc dans ce cas, donc, on
dit pas... Peut-être que ce n'est pas le même degré de... Je ne sais pas.
On ne dit pas, mais quand même... Il y a quand même certaines mesures toi-même, tu dois adopter en tant que personne physique, parce que tu sais que ça, quand ça vient, ça vient.
En tout cas.
Mais il y a également, du côté des écoles, il faut regarder aussi dans les classes comment les élèves sont entassés dans une seule classe. Et ça, ça facilite également la contamination rapide.
D'accord.
Donc, voilà.
Alors, un dernier mot, Hassan Boukar, pour nos autorités, comment elles doivent s'y prendre aujourd'hui pour prévenir, si on peut le dire, ces épidémies.
Encore une fois, pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment de travailler la prévention. Moi, j'ai vu au moment le personnel médical, par exemple, lorsque les médias annoncent des cas de méningite, des choses qui sont inquiétantes, les spécialistes, parfois, ils ne sont pas contents, ils disent... Vous semez la panique au sein de la population. À quel moment on trouve le parallèle entre la nécessité de laisser les techniciens faire leur travail et le rôle des médias, par exemple, qui est de dire aux gens attention à la méningite. Oui. Donc, il y a, à mon avis, vraiment un travail de communication à faire. Encore une fois, le rôle des services d'État, c'est faire la surveillance. Il faut qu'on surveille. Regardez, par exemple, au sein d'une école. Supposons que le vaccin a une durée de vie de 3-4 ans. Dans une école, c'est facile de savoir qui a été vacciné l'année dernière. Si tous les élèves qui sont au CI dans mon établissement cette année sont vaccinés, l'année prochaine, ce n'est pas la peine de les vacciner. On ferait profiter à d'autres qui viennent d'arriver au CI. Donc, il y a un travail, à mon avis, de surveillance, d'organisation des services de santé, de façon à réduire l'effet de ces maladies. Et rappelez-vous qu'on fait souvent appel à la solidarité internationale pour avoir les vaccins. On fait appel à l'OMS, on fait appel à d'autres pays, et on sait le moment où ça arrive. Donc, là, tout de suite, c'est sur les mesures à prendre. Par exemple, peut-être que au vu des modes de transmission de la maladie, il y a quand même des choses que le service de santé peut conseiller aux gens, dire prenez telle mesure, ça peut freiner, etc., etc. On sait que ça arrive. Et donc, à mon avis, il y a tout un travail. Mais encore une fois, la prévention, c'est mieux que d'attendre que l'épidémie
s'installe. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, oui, Ousseini, rapidement.
C'est un vaccin qui se vend dans les pharmacies.
Dans les pharmacies.
Oui, ça coûte ça coûte les yeux de la tête, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit, il faut aussi revoir le coup, parce que je me suis renseigné et au tout départ, on me fait comprendre que ça excède, ça avoisine les 50 000
la dose.
Alors, quand c'est des maladies comme ça où on laisse les pharmaciens faire ce qu'ils ont envie de faire, moi, je me dis, l'État doit pouvoir réglementer, même s'il faut subventionner, mais ça ne peut pas être
Alors, nous souhaitons
les gens peuvent eux-mêmes acheter à des coûts moindres, ça dit, les gens, leur propre famille, ça va faciliter les choses.
Alors, nous souhaitons que vraiment la situation soit maîtrisée. Merci donc pour vos analyses et commentaires. Nous allons observer une courte pause. Deuxième sujet de ce forum de la presse, les autorités béninoises ont décidé de bloquer lundi 6 mai 2024 l'embarquement du pétrole nigérien à la station terminale du pipeline Benin-Niger située à Semepoji. Cette décision prise au plus haut niveau par l'État béninois selon RFI a été communiquée à l'ambassadeur de Chine au Bénin ainsi qu'à la société de gestion du pipeline China National Petroleum Corporation et le président béninois a confirmé mercredi 8 mai la décision dans une courte déclaration. Alors Ousseini Issa, comment avez-vous accueilli cette information?
Ah mais ça a été un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Et puis l'argument qui a été avancé par les autorités béninoises, c'est un argument qui ne tient pas la route.
Quel est l'argument déjà?
Dire qu'on a refusé d'ouvrir notre frontière. À cause de ça, ils vont bloquer quand même un investissement lourd,
vraiment.
Un investissement économique, et qui regroupe trois parties. Il n'y a pas que le Niger. Il y a les Chinois. Les gens, ils n'existent pas. Et que les gens considèrent même insignifiantes comparées à ce que les Chinois. Vous me voyez les Chinois en train d'accepter ce genre de chantage-là. Mm-hmm. Parce que dans tous les cas, moi, je dis que c'est un chantage. Et l'argument qui a été avancé
par les autorités béninoises,
et selon lequel le Niger refuse de rétablir les relations.
Justement, il a dit regretter même les relations difficiles entre les deux.
Oui, mais les relations difficiles ont une cause. Qu'est-ce qui a amené ces relations difficiles là? Tout le monde sait. Normalement, quand il y a eu, comme on avait dit, à la suite des événements du 26 juillet 2023, il y a un pays qui devait refuser de fermer systématiquement sa frontière, c'était bien sûr le Bénin. Vu nos relations, vu les liens naturels qu'il y a entre nous, ils se sont empressés de fermer systématiquement. Et c'était une façon d'asphyxier, non seulement sur le plan alimentaire, mais sur le plan également sanitaire, parce que les médicaments ne venaient plus et tout.
Oui.
Pendant combien de mois? Moi, j'ai dit, du jour au lendemain, vous décidez, parce que vous avez vu que les sanctions, eux-mêmes ont reconnu que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté. C'est pour ça qu'ils sont revenus là-dessus. Mmh. Maintenant, de là à considérer que... Alors, parce que c'est au plus tard, peut-être le 16 mai prochain, que le premier tanker devait quitter. Et comment devait être...
Le premier bateau,
oui, bien sûr, à partir de la plateforme. Vous dites non, vous fermez, ça ne passe pas. Mais alors, est-ce que les Chinois là...
Donc selon vous, ce n'est pas raisonnable cette
décision
prise par
les autorités? Non, ce n'est pas du tout, c'est même insensé parce que c'est économique. Le Bénin gagne quelque chose de 300 milliards par an dans cette activité-là. N'est-ce pas? Comment peut-on renoncer à 300 milliards? C'est des activités économiques. C'est un peu comme ce qui concernant la fermeture du port, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Parce qu'il y a des accords. Il y a des accords qui ont été signés et il y a des accords à l'international, au niveau de l'OMC notamment.
Vous pensez donc qu'il pourrait revenir sur sa décision?
Ah mais ils n'ont pas le choix, ils vont revenir parce que les Chinois là, c'est pas des enfants de cœur. Hein. C'est pas au Niger seulement, ils font mal. Ils font mal aussi aux Chinois qui ont mis, qui sont les principaux investisseurs. Vous pensez que les Chinois vont accepter que... Non, ils vont taper du poing sur la table. Et de celle-ci, c'est que ça, parce que même s'il y a des, parce que c'est un accord, il y a les clauses qui sont là. On devait tenir compte des dispositions de ces clauses-là.
Mm-hmm. Alors, elles doivent être respectées alors.
Oui, en violant ces clauses, ça veut dire qu'il peut même y avoir des poursuites à l'international. Par rapport, c'est comme la fermeture du port.
Mm-hmm.
Ça aussi. Il y a même un ancien ministre des Transports béninois qui a dit, le Bénin ne sait pas les risques auxquels il expose son économie. Et l'économie est durement affectée du fait de la fermeture de ce port-là. Mais sans compter que le Niger peut engager des poursuites. Parce que c'est formellement interdit de fermer, pour les pays de l'Interland, de fermer un port. Parce que tout simplement, il y a une... Et puis en plus, c'est une affaire politique purement interne, n'est-ce pas? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Maintenant, à la dernière minute encore, voilà,
cette question d'embarquement de pétrole.
Cette affaire d'embarquement.
Mm-hmm.
Alors que le mazout a commencé déjà à couler depuis combien de mois?
Ouais.
Je ne sais plus, depuis c'était le mois de... Je ne sais plus c'était dans quel mois ça a été le lancement
janvier,
officiel. A été
en janvier, je pense bien.
Alors, on a dit que ça va arriver au plus tard en mai.
Mm-hmm.
En mai, juin, ça va arriver. Et à la dernière minute, vous dites que non. Vous allez
ce n'est pas raisonnable.
Non, mais ça marche pas.
Selon Ousseini Issavou Memouna, quel est votre avis sur ce sujet? Parce que le président Talon, dans son discours, disait que si demain Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien dans les eaux béninoises. Mais il cherche aussi la réouverture des frontières.
Mais c'est ça la collaboration dont il parle. C'est la réouverture en fait de la frontière du Bénin et du Niger, du côté du Niger. Puisque Talon a dit que de son côté, c'est déjà ouvert. Maintenant, c'est les Nigériens, les autorités nigériennes qui ne sont pas prêtes aujourd'hui à réouvrir la frontière entre le Niger et le Bénin. Et j'ai écouté aussi ministre des Affaires étrangères qui disait que pourquoi on a accepté d'ouvrir les frontières avec le Nigeria, et alors que c'est le Nigeria qui nous a fait du mal, plus que le Bénin, puisque le Nigeria a demandé les sanctions, le président se trouvait là-bas. Donc, en fait, ils sont en perdition. Je me dis qu'ils sont en perdition. Ils sont en train de chercher la manière où ils vont essayer d'être en contact avec les autorités nigériennes pour pouvoir ouvrir les frontières. Parce que vous savez, comme quoi qu'on le dise, l'économie du Bénin est en danger. C'est en régression parce que on vit, les deux peuples vivent ensemble. Les autorités, oui, ce que nous cultivons ici et ce que nous produisons ici, c'est à peu près, ça permet de faire vivre le Bénin. Et ce que le Bénin a aujourd'hui, ça permet également aux Nigériens d'en profiter.
Les fruits, les céréales.
D'en profiter. Mm-hmm. Donc, il veut tout simplement faire comprendre aux Nigériens et aux autorités nigériennes que maintenant, voilà, nous aussi, on a de quoi mettre la pression. Oui. On a de quoi mettre la pression. Si on a de quoi mettre la pression, donc il faut s'en approprier. Mm-hmm. Et il faut également mettre dans les conditions... Pour mettre dans les conditions la réouverture rapide
des frontières. D'accord.
C'est ça, en fait. Donc, c'est un jeu et ils sont en train de jouer avec l'intelligence des Nigériens. Mmh. Mais bon, ça ira.
Alors, pour rappel, pipeline long de près de 2000 km devait initialement transporter jusqu'à 90 000 barils de pétrole par jour depuis Agadez au Niger et jusqu'à Semepoji. Et sa mise en service peut représenter un potentiel de croissance, voire de développement économique. Alors, Hassan Boukar, quelle doit être aujourd'hui la position du Niger dans cette situation?
Et à mon avis, il faut se rendre compte que la géographie a voulu que le Bénin fasse partie de nos voisins. Et mieux, la géographie a voulu que le Bénin soit notre accès le plus rapide à la mer. Mmh. Aujourd'hui, l'essentiel des échanges au niveau international se fait via la mer. Le pétrole fait partie des produits qui circulent sur les mers. Nous avons donc besoin du Bénin. Autant, le Bénin a besoin du Niger. Mmh. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le prolongement de la crise qu'on a connue à travers les sanctions de la CEDEAO. À l'époque, le Bénin a cru devoir se positionner aux côtés des autres États, montrer beaucoup de zèle dans sa volonté à sanctionner le Niger, à fermer sa frontière, fermer le port de Cotonou, etc. etc. Mm. Mais le Bénin a dû mesurer que le port de Cotonou, c'est le poumon économique du Bénin, que l'essentiel des transits de ce port se font en direction du Niger.
Oui.
Ils l'ont compris. Et du coup, lorsqu'ils l'ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des excuses. Hein. Tout le monde se rappelle des prises de position de Talon en disant « Je ne savais pas, ce n'était pas pour condamner. » Mais qu'est-ce que le Niger a fait? Le Niger a dit « Écoutez, puisque vous avez pris cette position, nous ne sommes pas obligés de rouvrir la frontière parce que vous avez décidé d'ouvrir. Mm-hmm. » Maintenant, les Béninois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette décision-là, elle a eu beaucoup de conséquences sur eux. Le FMI leur a dit, une fois qu'ils auront des situations économiques difficiles, s'ils prolongent cette crise avec la frontière du Niger, qui même certains ont dit, le paiement des salaires à titre régulier pourrait être difficile. Mm-hmm. Dans l'économie du Bénin, vous avez par exemple des produits sensibles qui arrivent au Bénin, lorsque ceux qui importent les véhicules, ceux qui importent les vivres en direction du Nord Mali, du Niger, du Nord Nigeria, du Tchad et qui transitent par le port de Cotonou, en ce moment, les Béninois font importer aussi d'autres produits sensibles. Dès lors que ces grosses commandes n'arrivent plus au port de Cotonou, ces produits sensibles manquent aussi sur le territoire béninois. Donc le Bénin vit une vraie crise économique aujourd'hui liée à cette situation-là.
Donc c'est à son intérêt.
Et donc aujourd'hui, sur le pétrole, ils savent bien que nous tenons beaucoup au pétrole. On prévoit une croissance à deux chiffres pour le Niger grâce à l'exploitation du pétrole. Ils savent qu'on fait beaucoup de calculs sur les retombées du pétrole. Et donc, ils s'agrippent à ça. Talon estime aujourd'hui qu'il y va de l'intérêt du Bénin d'aller jusqu'au chantage avec le Niger pour obtenir la réouverture des frontières.
Ce qu'il montre, c'est
qu'entre les États, on a beau dire, nous sommes frères africains à la solidarité. Ce qui compte, c'est les intérêts des États.
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le CNSP a intérêt à négocier aujourd'hui?
Alors, on négocie de la façon dont on pose les débats. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut ramener les rapports d'État à État sur les questions d'humeur en disant qu'ils se sont mal comportés avec nous? On leur fait payer, ou alors on dit, écoutez, aussi longtemps qu'on a eu intérêt à garder la frontière pour faire passer un message au Bénin, en leur disant, si nous on boycotte votre port, vous allez le ressentir, on l'a fait. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, on a intérêt à laisser les vannes de pétrole fermées, ou alors c'est nous qui avons intérêt. Le Bénin gagne sur un certain nombre d'années.
C'est un vrai dilemme alors.
Voilà. C'est que le Bénin gagne sur un certain nombre d'années, donc c'est à peu près les chiffres que Ousseini a avancés, je crois, sur quelques années. Il gagne à peu près 500 millions de dollars en termes de recettes. Mais nous, on est censé gagner beaucoup plus. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on dit aux Béninois, écoutez, on ne va pas mourir parce que le pétrole ne part pas? Ou alors, on leur dit, écoutez, il y a la partie chinoise qui a investi près de 2 milliards de dollars pour faire les pipelines. On se met à trois, on discute pour trouver une solution. Maintenant, quand j'écoute un peu le débat tel qu'il est apprécié ici, il y a des choses que les gens veulent qu'on ne peut faire qu'à moyen et long terme. C'est-à-dire, on peut se passer du Bénin. Pour se passer du Bénin, je suppose qu'il nous faut une alternative.
Voilà.
Alors, est-ce que l'alternative pour accéder à la mer, c'est le port de Lomé? Si c'est le port de Lomé, ça veut dire, donnons-nous les moyens de fluidifier l'axe Lomé-Niamey. Est-ce qu'on veut avoir des chemins de fer? Un des enjeux aujourd'hui...
Mais est-ce qu'un temps recours sera, pourrait se réaliser?
C'est une question qu'on peut se poser.
C'est une vraie expertise, oui.
Mais je veux dire, un des enjeux aujourd'hui pour le Niger, c'est comment amoindrir le coût des transports entre les ports et le Niger. Et pour l'amoindrir, il faut peut-être avoir des voies ferrées. Ça peut amoindrir. Il faut peut-être faire des autoroutes. Pour l'instant, on n'y est pas. Par exemple, est-ce que... Il n'y a pas que le pétrole qu'on exporte à partir du Bénin, c'est aussi l'uranium qu'on exporte. Est-ce qu'on peut discuter avec les Algériens de façon à dire Arlit est plus proche de l'Algérie et donc on exporte notre uranium à partir du territoire algérien jusqu'à la Méditerranée? Donc toutes ces mesures-là pour dire aux Béninois, écoutez, on peut se passer du Bénin, ça suppose qu'il y a des mesures à prendre et ces mesures ne peuvent pas être urgentes. Donc alors, pour l'instant, à mon avis, il faut forcément que les trois parties se retrouvent, le Niger, le Bénin, la Chine, pour discuter. C'est une affaire d'État à État, une affaire de comment on situe nos intérêts. Ce n'est pas une question d'humeur. C'est-à-dire que ce n'est pas comme entre individus, tu as insulté mon papa, je vais te le faire payer. Non, il s'agit des rapports entre États.
Alors, Seini, quelle sera la suite?
Moi, je pense que les Chinois, ils ont déjà pris l'affaire en main. N'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai lu un document qui dit que c'est normalement ce 16 mai-là que le premier tanker devait être opérationnel. Et voilà, que, comme avait dit, d'un coup, le Bénin dit non, c'est pas possible. Alors, ça veut dire, les Chinois, ils ne viennent pas mettre leur argent et puis regarder quelqu'un saboter ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup d'argent comme ça. Moi, je me dis, ils vont trouver un mécanisme parce que c'est pour faire mal au Niger. Mais ils ont mal calculé en oubliant qu'il y a un partenaire stratégique qui est la Chine, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu les explications fournies par le président Talon, j'étais un peu sidéré parce que j'ai causé avec quelqu'un qui était là-bas, rien que la semaine dernière, une autorité nigérienne qui a conduit une délégation officielle qui a dit avoir discuté avec, comme avait dit, la douane béninoise avec, et comment ça s'appelle, le ministre béninois et qu'ils se sont entendus, ils ont accordé les violons. Et voilà, ils disent qu'ils ont été mis de côté.
Ils n'ont pas été officiellement informés.
Non, mais c'est pas bon de raconter des histoires. Moi, je me dis, reconnais, peut-être c'est pour mettre la pression, faire du chantage, mais c'est pas la peine de mentir parce que la mission nigérienne qui s'est déplacée là-bas, c'est une mission officielle qui a rencontré des officiels béninois qui ont discuté pendant 3 jours sur les derniers détails par rapport à l'exportation.
Alors, les prochains jours,
les Chinois, vraiment. Moi j'ai dit, depuis qu'ils ont reçu cette information-là, ils dorment pas. Ils vont pas aller. Non, ils dorment pas, les
Merci.
Chinois. Je vois pas comment ces grosses sociétés chinoises là vont mettre leur argent comme ça et puis, quelqu'un va considérer que il va bloquer. Non.
Mais bon, rapidement.
Juste dire que en fait on aimerait retrouver le Bénin d'avant et avec ses populations vraiment. En tout cas et aller vers la réconciliation avec les autorités nigériennes. Parce que vraiment Talon, ce n'est qu'un individu, il va partir de toutes les mille manières et c'est l'État reste, les peuples restent. Donc, il faut regarder de ce côté.
Les valeurs,
en tout cas. Il faut regarder de ce côté pour pouvoir aller vraiment dans le sens de négocier et que tout le monde gagne dans cette histoire.
Alors, nous allons observer une courte pause. Dernier sujet de ce forum, la Commission nigériane de régulation de l'électricité, dans une note publiée le 3 mai 2024 et relayée par certains sites internationaux, a ordonné de plafonner l'approvisionnement en électricité de 6% aux clients internationaux du Bénin, du Togo et du Niger. La Commission estime que l'approvisionnement en électricité des clients locaux devrait être prioritaire parce qu'au Nigeria, les coupures de courant se sont aggravés récemment. Comment vous appréciez cette décision du Nigeria?
Je pense que c'est pas étonnant. Le Nigeria vit quand même une grande crise liée à l'électricité. On a connu le Nigeria d'avant, en fait, qui a déjà rarement eu la possibilité de couvrir tous les besoins nationaux, mais qui avait déjà qui a mis un point d'honneur à satisfaire les pays voisins qui étaient en manque, comme le Niger, le Togo, le Bénin. Mais aujourd'hui, la demande au Nigeria augmente. La demande est forte au Nigeria. Déjà, il y a beaucoup de difficultés à accéder au pétrole. Ils ont lancé certes un grand projet avec la raffinerie de Aliko Dangote, mais la demande en énergie est forte au Nigeria. Donc la population a augmenté, ils sont aujourd'hui plus de 200 millions d'habitants. Exactement. Il y a un besoin très fort et donc ils privilégient les intérêts nationaux par rapport à leurs voisins en plafonnant, je crois, à 6%.
Mais est-ce que après un contrat signé avec un autre pays, ils doivent revenir sur cette question des clients locaux qui doivent être prioritaires aujourd'hui?
Il y a toujours des mécanismes de révision des contrats. Mmh. C'est-à-dire que s'ils estiment qu'ils sont à un niveau où ils doivent réviser les contrats, ils peuvent, en discutant avec le Niger, réviser les contrats. Mais nous, au fond, ça nous passe un message. Le message, il faut être autonome en matière de la satisfaction de nos propres besoins. Et pour le Niger, encore une fois, la solution, c'est le solaire. C'est vraiment la source intarissable d'énergie aujourd'hui. L'État doit promouvoir, n'est-ce pas, le solaire dans notre pays. On l'a déjà vu pendant l'embargo. Et même si aujourd'hui, le Niger ne prenne pas cette décision, au vu de ce qu'on a vécu pendant l'embargo, le Niger devait se rendre compte qu'il doit être autonome, puisqu'on a les moyens de l'être.
Oui, parce que c'était avis, assuré, je crois, à près de 70%.
Voilà, par la partie nigérienne. Donc, à mon avis, on a les moyens aujourd'hui d'avoir une couverture beaucoup plus importante au plan national et les autorités doivent le comprendre. Vous voyez bien que les individus, ça donne un peu à ça. Quand vous observez dans la ville de Niamey, les gens essaient d'aller un peu vers le solaire. L'État peut le promouvoir, faire en sorte qu'aujourd'hui, à travers le solaire, on puisse couvrir davantage nos besoins nationaux que de continuer à dépendre du Nigeria. Bon, les accords qu'on a avec le Nigeria, c'est aussi entre autres sur le plan du barrage de Kandaji. C'est-à-dire faire en sorte que le Niger ne bloque pas les eaux du fleuve en ayant son barrage. Bon, on voit bien que selon leurs intérêts, les Nigériens agissent comme ils veulent. On a aujourd'hui une élite politique au Nigeria qui n'est pas celle d'avant. Celle d'avant, elle a des liens privilégiés avec notre pays pour des raisons historiques, géographiques, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que la seule solution pour le Niger, c'est d'être autonome. Et on a les moyens de l'être. Il faut absolument qu'on saisisse toutes ces crises qu'on vit aujourd'hui pour être autonome.
À mon avis, les moyens aujourd'hui, selon Hassan Vou, Memouna, on sait que le Niger dépend du Nigeria à peu près à 70 voire 80% pour son approvisionnement en énergie électrique. Aujourd'hui, si tout cet approvisionnement est plafonné de 6%, doit-on s'attendre à une intensification des coupures d'électricité qu'on vit déjà?
Mais déjà, les conséquences sont là. Nous sommes en train de subir à peu près plus de 3 mois, si j'ai bonne mémoire, les coupures d'électricité. Ce qui fait, les 7 mois même que nous avons fait avec le Conseil ou avec l'embargo, on n'avait pas quand même cette situation. N'était pas dans cette situation.
Depuis que la ligne a été rétablie
entre le Nigeria. Donc maintenant, c'est quoi? C'est vraiment d'aller vers l'indépendance. Le Niger a besoin d'être indépendant, en tout cas en énergie.
Tous les moyens sont mis.
Les moyens sont, oui. Maintenant, il faut grouiller pour que le barrage de Kandaji là, soit finalisé totalement. Il faut également aller vers l'expérience du solaire. Déjà, nous connaissons déjà que l'expérience du solaire, ça a été donné parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire 2 maisons, 3 maisons sans voir quand même un panneau solaire sur le toit de la maison. Maintenant, il faut essayer peut-être de revoir le coût de ces panneaux solaires-là. investir dans ces panneaux solaires. L'État peut investir dans ces panneaux solaires-là pour que les autres citoyens, les autres populations puissent s'en approprier. Moins cher. Parce que c'est avec ces coupures-là, on a comme l'impression qu'eux aussi, ils attendent avec cette coupure-là pour pouvoir faire grimper les prix.
D'accord.
Maintenant, il faut, parce qu'on l'a dit, on a fait Gorubanda, on a fait... après Gorubanda, là, ils ont la centrale solaire. Mais jusqu'à présent, regarde dans quelle situation nous sommes. Il faut profiter de ce soleil-là que nous avons, que nous sommes en train de se dire qu'on a le soleil ici au Niger et tout le monde sait qu'on a le soleil. Il faut profiter de cette manne-là, de ce soleil-là, en tout cas pour pouvoir aller vers d'autres orientations. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont expérimentés, des jeunes aujourd'hui scientifiques qui peuvent faire énormément de choses, qui font des créations. En tout cas, en énergie, beaucoup de choses.
Merci. Donc, voilà, merci, moi, le temps écoute nous-mêmes. Alors, Ousseine,
nous, il faut que la Nigeria aussi soit pour nous dire ce qui se passe.
Alors, Ousseine, vous, quelle est votre réaction face à cette note du Nigeria sur cette question d'approvisionnement en électricité qui sera plafonnée?
Quelle est ma réaction? C'est que ça va chauffer. Que Dieu amène la pluie rapidement. Quoi.
Mais que recommandez-vous comme solution aujourd'hui?
Au moins, quand il y a moins de comment on appelle, on va être embêté par les moustiques. Mais au moins,
on même peut si se protéger alors contre les moustiques avec les moustiques.
Mais ce que je veux dire, de manière, ce que je veux dire, ça c'est juste problème. Oui. Ce que je veux dire, ça monte un peu après 100 ans d'indépendance. Les accords qui ont été liés, c'était des accords. Abba vient d'effleurer ça. On ne pouvait pas faire barrage, on s'est entendu avec le Nigeria, parce que si on faisait le barrage à l'époque, le Nigeria n'allait pas avoir suffisamment d'eau dans le fleuve pour pouvoir faire, on s'est entendu sur un accord.
Oui.
On a vu avec le temps, avec les changements, comment dirais-je, des générationnels, on a vu ce que ça devient. C'est comme le POC de Cotonou, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit une chose, il faut avoir la vision. Quand on veut développer un pays, il faut l'énergie. Et il faut avoir l'indépendance énergétique. Et l'indépendance énergétique, c'est une vision. Ces 10 dernières années, on a vu comment on a fait de Gorbanza un investissement vraiment inutile. On nous a dit que quand on va faire cet investissement-là, c'est fini, il n'y aura plus les délestages et tout et tout. Parce que tout simplement, il y a des dessous de table, des gens ont gagné de l'argent. Ensuite, on est parti, on a cherché les Mauritaniens qui sont venus récemment, qui ont installé des comment on appelle ça, un partenariat public-privé, mais qui n'a pas résolvé le problème. Alors que les solutions sont là. Les solutions alternatives sont là. Le solaire.
Oui.
Albert Reit, à l'époque, avait tout fait pour que on abandonne ce projet-là. Les gens ne l'ont pas écouté parce qu'il n'y a pas à manger à boire dedans. Les gens ont préféré. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, avec le gaz qu'on produit en quantité, on peut produire de l'énergie. On a le charbon de Sakadalma, comment on appelle, où on peut faire... Autant d'alternatives, ce n'est pas attendre, parce que quand je vois les gens attendre, Kandaji, on attend Kandaji. Mais plus, quand Kandaji va venir, est-ce que la production de Kandaji peut permettre de couvrir les besoins, parce que la population croît, et les besoins également? Est-ce qu'il faut attendre? C'est malheureusement ce qui manque.
Kandaji ne va pas couvrir tous les besoins.
Alors, qu'est-ce que les gens sont en train de rêver? Quand on a mis cette centrale, on dit 100 mégawatts, 100 mégawatts, ça ne donne même pas 50 mégawatts, 60 mégawatts aujourd'hui. Comment on appelle les Mauritaniens qui sont venus implanter ici, avec sur un coût de, je ne sais plus de 100 milliards, machin, on voit les résultats. Bon, un peu le solaire, on a vu. Avec 30 milliards, avec 20 milliards, on a pu faire une centrale qui peut produire solaire, qui peut produire jusqu'à 30 mégawatts. Je me dis, c'est à la volonté politique, la vision. Chaque année, on peut, par région, on peut faire ce genre de choses-là. Pour un peu, comment vais-je dire, renforcer les capacités.
Alors, nos autorités donc doivent prendre des dispositions si cette mesure rentre en vigueur.
Ils ne devraient même pas attendre que ça rentre en vigueur.
Au fond, sur l'électricité au Niger, les besoins, c'est quoi? C'est la consommation des ménages. On n'a pas d'industrie. On n'a pas aujourd'hui un tissu industriel qui est vraiment gros consommateur. C'est juste la consommation des ménages. C'est les ampoules et les ventilles. En fait, c'est vraiment ça.
Et dans la note, il est ressorti que cette mesure devrait entrer en vigueur pour une période période de 6 mois à partir du 1er mai, mais pourrait être révisée ultérieurement. On souhaite vraiment qu'elle soit révisée. Alors, nous sommes au terme de ce forum de la presse. Merci donc à vous, chers invités, pour vos analyses, vos appréciations et commentaires. Houssaine Issa, journaliste indépendant, merci d'être venu. Mouna Diado, journaliste indépendante également, merci à vous. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio Alternative, merci aussi. Je suis Nafisa Adam Sirfa, la modération, la technique est assurée par Seigny Saka. Merci donc chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le programme des jeunes les week-ends avec l'actu des jeunes dès 17h suivi de Tous à la Fada et les forums à Hausa et Zarma samedi et dimanche à partir de 18h15. Très bon week-end à tous, au revoir.